Bonjour à tous. De l'Irak à la Libye, comment rebâtir des pays détruits par la guerre, minés aussi par leurs divisions? Deux expériences et témoignages croisés aujourd'hui, celui de l'ancien diplomate Patrick Hemzadeh, spécialiste de la Libye, et celui du journaliste, auteur d'un récit illustré, Le Parfum d'Irak. Ce sera Ferhat Alani. Ils seront tous deux avec nous à partir de 12h55. Mais d'abord, une vie dans le décor. Rendez-vous jusqu'à 12h30 avec une figure de la scène, Richard Peduzzi, architecte discret. C'est à lui qu'on doit le nouveau look de la Scala, ancien lieu des nuits parisiennes transformé en salle de spectacle. Le théâtre de la Criée à Marseille expose actuellement maquettes, croquis et dessins préparatoires des scénographies de ce proche de Patrice Chéreau et de Luc Bondy. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et bonjour Richard Peduzzi.
Bonjour Olivia.
Merci d'être avec nous. Alors parlez-nous d'abord de cette Scala que vous avez repensée en bleu.
Oui. Alors la Scala, d'abord, c'est un projet qui est arrivé à un moment où il fallait qu'il arrive pour moi. Parce que c'était juste, disons, quand j'ai rencontré Frédéric Biessy, c'était juste un peu après la disparition de Luc Bondy et de Patrice. J'avais pas tellement envie de faire des décors de théâtre et de travailler, d'avoir à discuter avec quelqu'un de nouveau sur le moment. J'étais même un petit peu en dehors de tout, comme ça. Et puis, lorsque Frédéric Biessy m'a amené à la Scala, m'a demandé de poser mon regard sur ce lieu, qui était un lieu en friche complètement, détruit, glauque, pourri, plein de carcasses de rats, de pigeons et tout ça. Comme j'étais pas en forme, ma première réaction a été de partir, presque sans lui parler. Et puis j'ai réfléchi quelques jours après, et je me suis dit, au fond, t'es idiot, quoi, parce que imaginer ce que doit être un théâtre au cœur de Paris, comme ça, ça peut être un travail absolument merveilleux, et ça l'a été. La Scala est un nouveau lieu, comme on dit, dans un lieu...
Mais c'est un lieu qui a une âme.
Dans un lieu qui a une âme, qui a une histoire incroyable. Et tout ça m'a donné beaucoup de le besoin, si vous voulez, l'envie de travailler avec les Biessy et d'essayer de donner le meilleur de ce que je pouvais donner. Pour moi, j'ai eu la chance de travailler pratiquement depuis l'âge de 20 ans jusqu'à maintenant avec Patrice Chéreau. Et l'un comme l'autre, on était toujours à se dire ce qui est important. D'accord, c'est le texte, c'est la musique, c'est tout ça, mais sur quel est notre état d'esprit, qu'est-ce qui nous préoccupe, nous tourmente, nous fascine aujourd'hui dans notre vie. Et c'était toujours ce qui était intéressant entre lui et moi, c'est que le plus important de tout, c'était que les choses qu'on fasse vivent. Et avec lui, j'avais l'impression que les murs que je dessinais, qui bougeaient sur le plateau, étaient des acteurs à part entière. Donc, j'avais un petit peu envie, toujours, j'ai toujours pensé comme ça, toujours dessiné comme ça, et les meilleurs dessins que j'ai faits, ça a toujours été quand ça touchait directement mes préoccupations, mes angoisses, mes joies, mes tout ça, quoi.
Il faut raconter que vous venez de la peinture, Richard Peduzzi, que vous faites cette rencontre qui va être décisive pour vous avec Patrice Chéreau, au tournant des années 70, et vous commencez ensemble à mettre en scène, à créer des décors, à repenser aussi des dramaturgies. Ça a été une vie de collaboration et de complicité entre vous deux.
Comme on disait l'un comme l'autre, souvent en faisant un spectacle, on avait l'impression de peindre à deux sur le même tableau, quoi. Et la rencontre avec Patrice m'a permis évidemment de faire des décors de théâtre, parce que c'est fondamental de quand on est sur un plateau et qu'il y a des acteurs, de faire un décor, mais en même temps de continuer à peindre. C'est-à-dire, j'ai écrit un jour un petit texte qui s'appelait « Construire ma peinture ». Et ça, c'est vraiment grâce à ce lien qui nous unissait l'un et l'autre. Et de savoir, j'ai entendu Pascal Grégory lire des textes de Patrice il y a 3 jours à la Criée, et il parlait de notre travail ensemble, et il disait, je sais qu'avec Richard on voit la même chose. Donc pour lui comme pour moi, c'est toujours très important de savoir ce que quelqu'un voit. Et on sentait bien que le regard de l'un et de l'autre allait vers le même point.
Patrice Chéreau est parti en 2013, puis Luc Bondy, vous avez perdu deux de vos complices en très peu de temps.
Ouais.
Pour vous poser la question franchement, est-ce que vous avez eu envie ou pensé tout arrêter? Est-ce qu'il y a un moment où vous n'avez plus eu envie de continuer?
Il y a eu un moment comme ça où je me suis dit, bah oui, il y a un rideau de fer qui est tombé devant moi. Quoi. Je savais plus ce qui m'arrivait. Mais je dois dire que la mort de Luc a ravivé celle de Patrice. Tant que Luc était là, il y avait quand même comme ça quelqu'un avec qui je parlais, avec qui il y avait une discussion qui continuait. Si vous voulez, la discussion que j'avais avec Patrice et les émotions, même le fait de pas se parler, de se regarder, on comprenait ce que l'autre voyait, quoi. C'était, je pense que c'est assez rare d'avoir un parcours aussi long, de travailler avec quelqu'un aussi longtemps. Donc il y a forcément de l'amitié, il y a forcément un combat qu'on mène l'un contre l'autre pour voir celui, c'est lui qui le dit aussi ça, ou chercher à épater l'autre toujours, sinon l'ennui arrive et c'est tragique. Et je crois qu'on s'est jamais, jusqu'à la fin, on s'est jamais ennuyé. Souvent, Patrice disait, oui, mais même quand j'aurais plus envie de faire des décors, il me le disait à moi même. Oui, à un moment donné, je serai tout seul avec, je lirai des textes avec deux projecteurs et ça suffit et tout ça. Je lui disais, t'es gentil, mais, et à chaque fois quand même, je lui présentais des dessins et des choses comme ça. Et il était content, vous voyez. Les derniers spectacles qu'on a fait ensemble, je pense que c'était parmi mes plus beaux décors, quoi. C'était I Am the Wind, de la Maison des Morts et Electra, qui était merveilleux.
C'est une vie, une création partagée à deux, mais c'est aussi ce que vous racontez, une aventure humaine. Vous avez mêlé les deux tout au long
tout le temps,
de ces
oui,
années.
Absolument tout le temps.
Je vous posais cette question d'arrêter, mais peut-être aussi pour une autre raison. Vous racontez dans un beau livre qui est paru et qui raconte votre travail, Là-bas, c'est dehors. Vous dites, j'ai trouvé avec ce métier un moyen de batailler contre l'inquiétude. Est-ce qu'il y a aussi un moment où vous auriez pu arrêter parce que vous aviez dit ce que vous aviez à dire, parce que vous aviez trouvé ce que vous cherchiez, c'est-à-dire des réponses ou peut-être simplement une forme de sérénité?
Je pense que la sérénité, c'est compliqué, mais je pense qu'on trouve jamais vraiment, quand on cherche, on trouve jamais vraiment le point qu'on cherche. Et qu'il y a toujours quelque chose qui, pour que ce soit, enfin, pour moi, la vie est comme ça, il y a toujours quelque chose de, qu'on connaît pas, qu'on cherche à découvrir, ou l'illusion de ce qu'on a envie de trouver, on sent qu'on l'approche, et puis non, on l'a pas, en fait. C'est très difficile de se dire, ça y est, j'ai trouvé. C'est la perfection. Là, pour moi, c'est synonyme de mort, quoi. Stravinsky disait chaque chose parfaitement symétrique et parfaitement morte. Donc, j'aime bien quand même laisser ouvertes toutes les portes de l'imagination. Et puis, je me suis beaucoup servi de l'enfermement, peut-on dire, d'une cage de scène de théâtre. Parce que c'est dans la cage qu'on trouve des idées pour s'en évader, quoi. Donc, la cage de scène a été pour moi vraiment un lieu d'évasion. C'est vrai aussi un lieu parfois de grande inquiétude, comme quand on a fait le ring et tout ça, c'était un poids terrible sur les épaules, mais en même temps, une merveilleuse aventure, quoi. C'est une façon de voyager, de tourner autour des choses, du monde, des éléments, des siècles aussi, avec, par exemple, tout ce qu'on a fait sur Shakespeare avec Patrice, et puis après sur Coltès, et puis les grands textes, et puis les opéras et tout ça.
Alors là, c'est reparti avec ce projet de Scala qui est maintenant achevé, avec aussi la scénographie d'un bal masqué de Verdi pour le théâtre de Genève, qui verra le jour l'été prochain. C'est reparti avec une forme d'inquiétude toujours, mais aussi de désir, parce que beaucoup font les deux à la fois. On a parfois du mal à distinguer, Richard Peduzzi, la scénographie de la mise en scène. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut les dissocier?
Écoutez, en général, il faut vraiment que, si on voit le décor et qu'on voit pas la mise en scène, si on voit la mise en scène et pas le décor, il faut qu'on oublie un peu le décor, je crois. Il faut qu'on oublie. Moi, je cherche toujours avec mes espaces, avec les lieux que je bâtis, à affronter le vide, si vous voulez, sans le déranger. Donc, il y a un moment donné, l'un fait partie de l'autre, quoi. Je crois que c'est Sénèque, je sais pas, un des Grecs qui disait, le décor doit être un acteur à part entière. Et c'est comme ça que je l'imagine, quoi. Il faut que ce soit tellement, il faut que ça fasse un seul bloc, un seul souffle, une seule respiration.
Et puis vous insistez aussi sur l'importance d'un décor qui mette en espace l'esprit, l'atmosphère de l'œuvre.
Bah, bien sûr.
Le décor doit être le reflet de l'intériorité aussi des personnages,
hein. Ouais.
Reproduire ou rapporter des fragments du monde extérieur sur la scène, est-ce que c'est ça que vous faites, Richard Peduzzi, ou est-ce qu'au contraire vous recréez, vous réinventez?
Je pense que c'est plutôt des fragments du monde intérieur, et à partir de ce que je regarde et de ce que je perçois et reçois de la nature, d'ailleurs autant de la nature humaine que de la nature des paysages, des architectures que je vois, que je regarde, des peintures aussi, évidemment. La peinture est une des choses qui me est un des arts qui me... Non, c'est pas vrai, c'est la musique aussi. Il y a des arts qui me touchent le plus, j'allais dire. Voilà.
Alors, comme un peintre, est-ce que le geste d'ailleurs est si différent? Les décors pour sortir du seul chevalet, les décors pour construire ma peinture, avez-vous dit? Je vous propose d'écouter à ce sujet les mots de la directrice du Théâtre de la Criée qui accueille cette exposition qui vous est consacrée en ce moment à Marseille, c'est Masha Makeyev.
Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la peinture et j'espère m'approcher du théâtre comme le ferait un peintre. Mais il se trouve que le peintre est dans une extrême solitude et que nous, au théâtre, à la fois c'est terrible et à la fois c'est magnifique, on ne peut rien faire sans l'autre. Vous pouvez avoir toutes les rêveries que vous voulez, à un moment donné, il faut en passer par la compétence de quelqu'un d'autre, l'éclairagiste. J'ai beaucoup d'appétit, de curiosité, de l'intelligence de l'autre et de trouver l'émotion de l'autre et de faire une partie du chemin avec quelqu'un en face de moi. J'aime beaucoup ça, oui.
Voilà, comme vous. Amitié partagée aussi avec Masha Makeyev. Le geste du peintre est très différent de celui de l'architecte, de la scène, du scénographe.
Ça, je ne peux pas vous dire. Je pense que quand même, si vous voulez, j'essaie de faire des dessins qui sont des dessins, a priori, qui ne sont pas pour faire des décors, quoi. Donc je suis très exigeant avec mes dessins, mes aquarelles et tout ça. Mais je pense que c'est quand même différent de faire seulement de la peinture, quoi. Il y a la force du vide et de la solitude qui est plus à combattre, j'ai l'impression, pour moi. Parce que quand même, au théâtre, enfin, c'est difficile d'en parler parce que je parle toujours de la relation avec Patrice, quoi. Donc je sentais que on se passait le relais, vous voyez. Donc c'était risqué, mais peut-être moins risqué que là, en ce moment, je travaille avec des gens que je connais pas. Et ça m'amuse aussi parce que j'ai l'âge de le faire, je peux le faire, voilà, j'ai rien à perdre. Mais quand même, j'essaie d'être très très exigeant, même si le metteur en scène n'est pas Chéreau, quoi. Tout le contraire. Et voilà, je pense
mais
que...
Mais ça fiche un peu la trouille, le sentiment d'être seul sur
ça affiche corde. Beaucoup la trouille, ouais. Ça affiche beaucoup la trouille, parce que là, on était, à nous deux, je pense qu'on était une armée, quoi.
Ouais.
Et avec Luc aussi, on était une armée. C'était très compliqué de nous refuser ce qu'on avait dans l'esprit et dans le cœur, ce qu'on voulait dire, ce qu'on voulait faire.
Et là, du coup, la Criée vous a fait faire un drôle de travail. Vous êtes allé fouiller dans tous vos tiroirs, dans votre atelier
j'ai mis des dessins et des maquettes qui sont ce que je vous ai dit tout à l'heure, quoi, qui ont un sens avec la vie, avec le chemin que j'ai fait avec Patrice. C'était uniquement sur des spectacles que j'ai fait avec lui, ces dessins-là. Il n'y avait pas de choses sur Luc et tout ça. Donc évidemment, il y avait Wozzeck, il y avait Lucio Silla, il y avait Hamlet, et qui sont des spectacles où il y a eu des tournures pour moi dans la façon dans la transformation de mes décors, si vous voulez, dans la façon de les épurer, d'être plus radical, et aussi, je crois, d'inventer une forme de changement de décor qui ennuie pas le spectateur, c'est-à-dire de passer d'une scène à l'autre, comme le magicien le fait, je veux dire, quand il sort de son chapeau, des colombes s'envolent ou des choses comme ça.
En fait, vous pratiquez quand même un art très éphémère, Richard Peduzzi.
Oui.
Et l'atelier, votre atelier, a sauvardé quoi? Des traces aussi de ces
décors? Des photos,
décors
des dessins, beaucoup de peintures, beaucoup de choses. Oui, le théâtre est éphémère, mais je me demande... Et en même temps, il reste tellement de choses, quoi, que c'est... que je sais pas vous répondre sur l'éphémère du théâtre, qu'il l'est pas en même temps, et qui quand même, c'est, si vous voulez, je vois à quel point Chéreau a marqué le siècle, et encore maintenant est présent, quoi, partout, et il a toujours pas été, les très jeunes l'entendent toujours, et je dois dire que cette relation avec les gens plus jeunes, pour moi aussi, c'est très important. C'est très important parce qu'ils m'apprennent des choses. J'espère leur en apprendre. Et il y a toute une génération de gens comme ça, dans les metteurs en scène, dans les musiciens, dans les compositeurs et dans les scénographes, qui arrivent très, très intéressantes, très importantes, et dont je ne connais pas vraiment les préoccupations.
Vous dites que Chéreau a marqué le siècle, mais c'est Chéreau Peduzzi qui ont marqué le siècle.
Oui, mais je ne vais pas dire
c'est
ça.
Ce duo. Non, vous n'allez pas le dire, mais moi je le dis. Et vous avez signé depuis 70... tous les décors des productions de Patrice Chéreau. Ça a commencé en 69 précisément avec le Don Juan de Molière. 70, c'était Shakespeare. À vous deux, c'est une révolution théâtrale, presque un manifeste qui s'est écrit au jour le jour et en complicité. Je vous propose qu'on l'écoute sur vos influences réciproques. Patrice Chéreau.
Le problème n'est plus de savoir qui a eu l'idée, qui a l'idée de départ. À un moment donné, c'est sûr que, par exemple, il y avait une perspective, je me souviens, dans Don Juan, qui venait un petit peu, que lui a fabriqué entièrement, et qui venait des rues du théâtre de Vicence de Palladio. Donc, est-ce que c'est moi qui ai eu l'idée? Est-ce que c'est lui? Est-ce que lui est arrivé quand j'ai déjà eu et l'a réalisé? Peu importe, puisqu'il s'est trouvé qu'on avait un goût commun pour le théâtre de Vicence de Palladio. Les machineries, je suis incapable de le dire. Il s'est trouvé que la beauté d'une machinerie italienne à l'ancienne, qui sont des choses qu'on a utilisées dans Don Juan, qu'on a utilisées les mêmes d'ailleurs dans Richard II, certaines des roues d'ailleurs, des roues dentelées qu'il y avait, les tambours, les trucs, etc., étaient à peu près les mêmes, qu'on a réutilisées d'ailleurs dans l'or du Rhin, dans le ring, qu'on a fait refaire dans l'or du Rhin, parce que c'est une sorte de vocabulaire commun. D'où ça vient, je ne sais pas. Je sais que lui m'a amené des documents, qu'on est allé au musée des arts et métiers, qu'on est allé voir des machineries, quand vous allez voir les livres anciens de machinerie théâtrale. Ça vient aussi d'une profonde admiration commune pour quelqu'un qui les a utilisés avant nous, qui est Luciano Damiani. Ça vient d'un univers visuel dans lequel on se retrouve, et ça vient aussi d'une façon par moments commune, et même si elle est divergente, c'est d'autant plus formidable de lire les œuvres et de ne pas penser d'abord strictement en termes de décor, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre, est-ce qu'on va mettre un mur, une porte, etc. Réfléchissons plutôt un petit peu à ce que nous raconte l'œuvre, à ce qu'elle peut nous raconter aujourd'hui. Et ça vient d'une envie commune de ne pas, à la fois, de partir d'un vocabulaire commun et en même temps de ne pas reproduire des solutions qu'on aurait déjà utilisées.
En fait, c'était peut-être ça le secret, vous parliez la même langue.
C'est émouvant de l'entendre.
Émouvant d'entendre sa voix ?
Toujours.
Toujours. Bon, on a retrouvé beaucoup d'extraits où il parle de vous, justement, et de votre collaboration, de la manière dont vous avez travaillé ensemble tout au long. Est-ce qu'on ne repartirait pas d'un exemple pour raconter comment ça pouvait se faire et comment ça fonctionnait entre vous ? Key West, par exemple, de Bernard-Marie Coltès. Alors là, c'est un troisième qui arrivait un peu dans le duo. Hein. Vous avez été marqué, vous, Richard Peduzzi, toute votre vie créatrice par les paysages de votre enfance, par la mer, par le port, par les containers. Vous avez vu d'ailleurs Le Havre depuis ? Vous aimez sa métamorphose ?
Ah ben, j'y suis allé, oui. J'ai même vu, quand j'étais tout petit, la construction, le démarrage de la construction par les frères Perret du Havre. Quoi. Et j'ai vu toutes ces ruines redevenir encore de plus grandes ruines, quoi, parce qu'elles étaient abattues, creusées, jetées pour voir pousser comme ça ces immeubles de Perret qui sont très beaux, mais qui sont bizarrement les ports de mer, le Havre, comme ça. On sent que c'est une ville qui est née pour être détruite. Je sais pas, parce que maintenant j'y suis allé il y a pas si longtemps que ça, et je voyais que toutes les architectures de Perret qui étaient sur le près du port, près de la mer, était déjà en train de se dégrader, de s'abîmer, de se noircir avec le sel, avec la mer et tout ça. C'est une ville qui me fascine, Le Havre. Mais je crois que les ports me fascinent en général, comme Barcelone ou comme New York, comme Hambourg.
Voilà. Alors dans Key West de Coltès, mise en scène par Patrice Chéreau à Nanterre, au Théâtre des Amandiers en 86, là on retrouve votre univers et votre imaginaire sur la scène du théâtre avec tous ces empilements de containers, ces lignes verticales et horizontales que vous avez toujours beaucoup travaillé, propre aussi à ces zones portuaires, à ces ports que vous aimez, cette géométrie un peu froide, un peu dure. Ça c'était un exemple flagrant de votre manière de faire entrer votre monde, de votre enfance aussi sur la scène.
Oui, alors là, moi je ne crois pas au hasard, je crois simplement au destin, si on peut dire. Et c'est très drôle parce que quand Bernard-Marie Coltès a écrit cette scène, il a pensé à un bâtiment en ruine sur le port de New York que je connaissais moi, que j'avais déjà photographié. Et on est tous allés à New York, Patrice, Bernard, moi, Daniel Delannoy qui était l'éclairagiste, et on s'est promené autour de ce bâtiment qu'on connaissait tous, quoi. Fait de tôles ondulées, d'architecture néoclassique, baroque, l'architecture industrielle du fer new-yorkaise, quoi. Et voilà, on est parti des containers, de l'eau. J'ai retrouvé les paysages de mon enfance, ça c'est sûr.
Est-ce qu'on peut tout faire entrer sur scène, Richard Peduzzi? Une forêt, un gratte-ciel, l'océan?
j'aime beaucoup ça. Comment faire pour que c'est que c'est là où je me dis la peinture rentre en compte. Si vous la peinture, ce qu'on sait en plus, le plus possible de la perspective, ce que le spectateur de sa chaise, comment il peut voir quoi, l'œil, le point qu'il voit. Parfois, si on essaie de faire exactement comme est la réalité, ça marche pas. Il faut trouver l'échelle, la proportion juste. Et ça, c'est le plus difficile, je trouve.
Et vous aimez jouer avec la contrainte, mais il y a eu quand même parfois des impossibles.
Ouais. J'avais pour principe de dire rien n'est impossible. Mais il y en a eu, quoi. Il y en a eu à Bayreuth, par exemple, où je suis toujours pas content du décor que j'avais fait pour Siegfried, la forêt, parce qu'il y avait tellement de décors sur ce grand plateau, merveilleux plateau, que j'arrivais pas à caser tout ce que je voulais comme je voulais, quoi. Donc il y avait quand même à peu près 18 décors avec ces opéras. Et voilà, je trouve que c'était une forêt de théâtre et c'était pas, ça me convenait pas. Alors que bien auparavant, on avait fait pour la dispute une forêt. D'où vient le là-bas, c'est dehors, d'ailleurs. Et celle-là, qui était au fond, comme ça, du plateau, était belle, ouais, était belle.
Alors vous avez aussi ensemble avec Patrice Chéreau monté Hamlet en 88 dans la cour d'honneur à Avignon. C'était il y a 30 ans déjà. Oula. On s'y replonge.
Que veux-tu d'ailleurs ?
Non.
Hein ?
Le
trône de Danemark. Que veux-tu d'ailleurs ?
C'est après que
tu
regardes, non ?
Non, c'est ça. Le trône de Danemark. Que veux-tu, Laërte ?
Je regarde. Ouais, c'est ça. Tu restes avec, c'est ça. Vas-y.
On redoutait, Seigneur, la permission et la faveur de repartir en France.
J'ai envie de repartir, carrément. Mon redouté Seigneur, j'ai envie de me tirer. Vas-y.
Mon redouté Seigneur, la permission et la faveur de repartir en France.
Voilà.
Avec empressement, je suis venu au Danemark vous rendre hommage.
Avec beaucoup d'empressement, vraiment.
Avec empressement, je suis venu au Danemark vous rendre hommage au jour du couronnement. Mais ce devoir rempli, je vous l'avoue.
Ouais.
Mes pensées et mes voeux retrouvent la France et sollicitent humblement votre bienveillant congé.
Avez-vous l'accord paternel ? Voilà mieux.
Alors vous nous parliez, Richard Peduzzi, des questions d'échelle. Là, elle se pose quand même assez franchement quand on voit cet espace, cet environnement qu'est la cour d'honneur du Palais des Papes, décor très puissant, très imposant, en pierre, avec des grandes verticalités aussi, comme vous les chérissez, vous les aimez dans vos décors. Qu'est-ce qu'on peut inventer là-dedans ?
Ben simplement, c'était un peu complexe. Quand je suis arrivé...
Simplement, ça n'a pas été si simple.
Non, mais en même temps, une fois que l'idée a été trouvée, Je me suis assis pendant un long moment dans l'après-midi quand j'ai su qu'on devait faire Hamlet dans la cour d'honneur. Patrice m'a dit j'ai envie de monter Hamlet, je te préviens, c'est le plus difficile et c'est, je vois pas comment tu vas t'en tirer, j'aimerais pas être à ta place, il me dit, dans la cour d'honneur, parce qu'il y a le Mistral, parce qu'il y a tout ça, quoi. On peut pas construire des décors en hauteur. Et quand j'ai regardé cette façade du Palais des Papes, là je vais me faire étriper, je la trouvais pas très belle. Je la trouvais très pleine de choses. J'arrivais pas à poser l'œil quelque part, vraiment. Je la trouvais un peu confuse, très moyenâgeuse, comme ça. Et je me suis dit, au fond, Hamlet, c'est une page de l'histoire qui se tourne, quoi. Donc, si on la tourne, on va vers la Renaissance. Et la Renaissance, une page de l'histoire qui se tourne, ça se plie, quoi, comme ça. Et ça vient en horizontal à plat, sur une table ou sur un plateau de théâtre. Et à partir de ce moment-là, j'ai évidemment repensé à une espèce d'architecture idéale de la Renaissance, c'est-à-dire j'ai pensé aux grands architectes comme Palladio, Sangallo et tout ça. Et puis j'ai commencé à dessiner à plat cette façade inversée couchée par terre comme ça. Et Patrice était très très content, quoi. C'était un... Et je lui ai dit ça doit ressembler à Lucio Silla mais couché par terre. Lucio Silla c'était aussi un mur avec des tiroirs et des trucs comme ça. Et voilà. Et c'était merveilleux de travailler Shakespeare avec lui, avec tous les acteurs qu'il y avait. C'était une réadaptation, une revision de la Renaissance, sans être complètement historique. Bien sûr, ça n'existe pas, ça, mais c'était ce que l'on ressentait aujourd'hui de cette Renaissance-là.
Il y a parfois certaines de vos scénographies qui ont fait scandale, qui ont fait du bruit, incomprises peut-être aussi.
Il y a eu à Bayreuth, hein, la première année, quoi. C'était vraiment... mais c'était
sur la tétralogie
dans la tétralogie l'heure du Rhin le
la Valkyrie, le Siegfried et le Crépuscule des Dieux, tout ça, ça a fait scandale, quoi, parce que c'était des révolutionnaires communistes qui venaient envahir Bayreuth et Patrice a été menacé, moi j'étais comme ça menacé pour mes décors, et tout ça. Et puis, après ça s'est calmé, ils ont été très gentils, mais ça a fait scandale. Je crois que pour les Contes d'Hoffmann et pour Loulou, non, les Contes d'Hoffmann aussi, ça avait fait scandale. On avait été menacé de jeter de je sais pas quoi et tout ça. Et puis bon, voilà.
Ça s'est calmé ou c'est vous qui avez mis de l'eau dans votre vin entre 76 et 80, par exemple, sur l'histoire de la tétralogie.
Il y a un très grand musicien que j'aime énormément, qui est John Coltrane. Et lui, il dit un jour, quelqu'un, un journaliste interviewe et lui dit, mais vous êtes fait siffler, vous êtes fait huer à l'Olympia, pourquoi? Alors lui, il dit, ils avaient certainement raison parce que je suis pas allé assez loin dans ce que je voulais dire. Et je pense que c'est ça l'histoire. Je pense que la première année du ring, personne n'était allé assez loin et dans ce qu'on voulait raconter, quoi. Et je pense la musique, je pense la mise en scène et bien sûr les décors que j'avais pas eu le temps de finir comme je voulais, ou certains même où je m'étais complètement trompé, comme le deuxième acte de la Valkyrie.
Alors vous avez collaboré, participé, travaillé avec Patrice Chéreau au théâtre et au cinéma, La chair de l'orchidée, L'homme blessé, La reine Margot, ou encore Ceux qui m'aiment prendront le train. Il y a le cinéma, il y a le théâtre, il y a aussi les musées dont on n'a pas eu le temps de parler. Et puis il y a l'opéra. Vous l'avez évoqué, on écoute quelques notes du Lucio Silla, mise en scène à la Scala de Milan en 84 par Patrice Chéreau avec vous. Et l'opéra dans tout ça, Richard Petuzzi, c'est encore plus grand, encore plus intense?
Non, moi, si vous voulez, j'ai jamais... Ça vous provoque d'autres émotions. Mais faire un décor d'opéra ou faire un décor de théâtre, je pense que c'est la même chose, quoi. Et c'est vrai, même dessiner une chose, pour moi, une chaise, c'est la même chose, quoi. Je pense que chaque dessin, c'est faire le même métier, c'est avoir la même approche des objets, des gens, tout ça. Je dis souvent, une chaise, c'est un temple, parce que c'est l'endroit où on s'assied dessus, où on rêve, où on écrit, où on travaille, où on est malheureux, où on se pose, et voilà.
Au théâtre ou à l'opéra.
Je voudrais juste raconter une petite histoire.
Très vite.
On a le temps. Une des dernières fois que j'ai vu Patrice, on devait monter Comme il vous plaira. Et on pouvait pas faire de forêt, là, parce que c'était pas bien, c'était en bifrontal. Et je le retrouve dans un café, et je lui dis, je crois que j'ai trouvé l'idée. Et lui, il me dit moi aussi, et il me sort de sa poche un arbre, un seul arbre, et moi je sors de la mienne aussi une photo avec un seul arbre. Voilà. Et il y avait Clotilde M qui était témoin de ça, et on s'était rencontrés.
La rencontre est aussi à retrouver en ce moment au Théâtre de la Criée, entrée gratuite. Vos maquettes, vos dessins, vos brouillons, tout est exposé, ou une bonne partie
pas
d'entre
tout,
eux.
Mais une bonne partie.
Voilà, à Marseille, au Théâtre de la Criée. Et puis on a hâte de voir votre prochaine scénographie, donc le bal masqué de Verdi. Ce sera au Grand Théâtre de Genève. Grand merci à vous, Richard Petuzzi.
Merci à vous. Merci beaucoup.